Bonjour à tous. J'ai démarré du coup 2 minutes avant l'heure. C'est de pire en pire avec Marion. Bonjour, bonjour à tous en ce mardi 17 octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Du coup, on va discuter un tout petit peu pour laisser aux gens le temps de nous rejoindre ce matin tranquillement. Vous avez 2 minutes en rab avant 8 heures. Salut, salut Eliav, salut VBPX84, salut Sinote, salut PixL07, salut Samuel, salut Oleg, salut Yves Castel, salut Poppy. Mais il ne faut pas démarrer trop tôt. Oui, Samuel, en fait, pour tout vous dire, c'était un test que je voulais faire sur cette caméra. Parce que j'avais un truc bizarre d'afficher sur la preview. Et donc, du coup, j'étais à merde. Il me semblait que j'avais testé et que ça marchait. Bon, ça marche. Mais du coup, ça m'a fait démarrer le live trop tôt. Donc, faut pas rater le train avec Marion. Non, non, mais je vais laisser le temps aux gens. Vous voyez, j'ai même pas lancé le générique. Donc, officiellement, l'émission n'a pas encore démarré. Non, mais c'est de l'impatience. C'est de l'impatience ce matin. J'ai hâte de commencer la journée en bonne compagnie avec vous dans la chatroom. Et donc, c'est pour ça que je me mets à démarrer les lives encore plus tôt. Alors, attendez, j'en profite pour installer correctement. Vu qu'il est toujours 59. Non, mais vraiment, vraiment, ça montre que des fois, je ne suis pas vraiment réveillée le matin. Donc là, c'est un bon exemple. Je vois d'ailleurs que je ne suis pas sur le live du côté de Twitch. Donc, je vais en profiter aussi pour mettre ça correctement. Hop, comme ça, je suis prête tout à l'heure. Voilà, parfait, parfait, parfait. Bon, comment ça va dans la chatroom sinon? Hop, je regarde un petit peu comment... Salut Swen 68 et 68 net. Salut FRJ, salut Grolb, salut Indy. Un mug en avance, on aura vraiment tout vu. Non mais on va y arriver. Salut l'extrême 45. Bon, en effet, c'est quand même plus sympa finalement de se dire que ça démarre plus tôt que ça a du retard hein, en même temps. S'il fallait choisir, sachant en plus que vous êtes en train de rien rater parce que voilà, j'attends que les gens arrivent tranquillement. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Un grand merci à Electribe pour ton soutien. Tu nous dis bonjour, bonjour à tous, le monde Earth Day. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toi, j'espère que tu t'es levé de bon pied, du bon pied ce matin. Peut-être pas comme moi, pourtant ça va, je me suis levé du bon pied, tout va bien ce matin, j'ai la pêche, j'ai peut-être un peu trop la pêche. C'est peut-être ça la différence finalement, c'est peut-être ça le détail. Salut On Off Web, salut Ivy Barrel, salut Pierre Roots, salut Azerox, salut Laetitia. Bon, bah du coup, comme on a pas mal d'habitués qui nous ont rejoints et qu'il est 8h01, je vous propose qu'on lance le générique. Donc, bienvenue à tous sur l'émission Le Mug ce matin. Nous sommes le mardi 17 octobre et donc, on commence l'émission. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour débriefer de l'actualité tech qui fait le top des news de ce mardi matin. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la sphère tech? On a pas mal de petits sujets. On a du gaming, on a de la location, on a des outils plutôt professionnels. On a même Twitch qui nous annonce une nouveauté sur sa plateforme. On va parler réseaux sociaux, mais je vous rassure, on ne va pas parler de Twitter ou de X ce matin, vous pouvez souffler. Et puis, on terminera avec un petit peu de streaming, mais plus en détail, on va parler de Cyberpunk 2077. le jeu qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui il y a quelques temps. On va parler plus précisément de l'extension qui devrait arriver, enfin en tout cas sur laquelle le studio est en train de bosser, et notamment sur le doublage des voix. Et qu'est-ce qui se passe quand finalement un des acteurs qui doublait les voix d'un personnage connu dans le jeu, malheureusement, décède entre-temps? Et ben, ils vont faire appel à l'intelligence artificielle. Pas de levée de bouclier, la famille avait donné son accord. On parlera de Airbnb, on prendra des nouvelles de Airbnb à New York. Et autant vous dire que c'est pas très rose hein, pour Airbnb à New York, puisque une nouvelle législation a quand même drastiquement réduit le nombre de locations courte durée disponibles sur le site, puisqu'il faut être enregistré officiellement et il faut suivre tout un tas d'indications pour avoir l'autorisation de louer sur courte durée à New York. Est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision? On verra un petit peu les effets secondaires, en tout cas, de cette nouvelle législation et qu'est-ce qui peut se passer. Voilà, et ça donnera peut-être une indication, en tout cas pour d'autres villes qui seraient tentées mettre en place des règles plus strictes pour contrer un petit peu le manque de location long terme pour les vrais habitants, entre guillemets, des villes qui malheureusement ont de plus en plus de mal à se loger. Ça sera intéressant justement d'en discuter. Airbnb, est-ce que c'est encore finalement un service qui fait partie de l'économie de partage, où finalement on pouvait louer une chambre ou une partie de son logement et accueillir les gens en fonction avec l'hôte et les visiteurs? Est-ce qu'on est encore là-dessus? Ça sera intéressant d'avoir votre avis à vous dans la chatroom. Si certains d'entre vous ont continué en tout cas à utiliser la plateforme Airbnb, ça m'intéressera d'avoir votre avis. Et puis on parlera de Atlassian, qui a annoncé qu'il rachetait le service de vidéo Loom. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas Atlassian, vous connaissez sûrement pour ceux qui travaillent dans le développement, puisque c'est la société derrière les outils du type Jira et Confluence. Donc Jira, c'est l'outil de ticket, on va dire, pas mal utilisé dans la communauté ingénieur. En tout cas, nous, à mon travail, on utilise plutôt Linear maintenant. On était passé par Trello, on n'a jamais fait Jira. Jira, c'était un petit peu trop complexe, on va dire, pour que ce soit utilisé par tout le monde dans l'équipe produit. On était resté sur Trello et là, aujourd'hui, on est sur Linear. Mais voilà, c'est sur ce principe de tableau Kanban où on peut gérer les tickets, les priorités, etc. Au niveau du produit. Cette société qui va du coup être concentrée sur des outils professionnels ici va s'augmenter avec cette plateforme vidéo. Alors Loom, c'est une société qui va permettre d'enregistrer des vidéos courtes, relativement courtes, où vous allez pouvoir à la fois filmer un écran et vous filmer également en train de parler dessus. C'est super pratique, notamment pour faire des démos produits. Moi, j'utilise beaucoup à mon travail. J'utilise la version gratuite, hein, pour être honnête. Ça me suffit. Et c'est vrai que du coup, c'est assez intéressant de la part d'Atlassian d'avoir fait ce rachat. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui travaillent justement avec les outils d'Atlassian. Et puis on parlera de Twitch. Qu'est-ce qui se passe du côté de Twitch? Twitch continue d'essayer de renforcer finalement les outils pour les créateurs de contenu afin de stimuler organiser ou interagir avec leur communauté. Donc c'est assez logique finalement qu'ils proposent maintenant l'arrivée des stories sur la plateforme Twitch. Les stories, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment la même fonctionnalité qu'on a pu voir déjà sur Snapchat, sur Instagram et qui a pas mal de succès finalement. Et donc, du coup, c'est assez logique que ça fasse son arrivée sur Twitch. Est-ce qu'on y croit ou pas sur la plateforme Twitch? Ça, c'est une autre question. Ça m'intéressera d'avoir votre avis, vous qui utilisez justement Twitch, notamment tous les matins pour regarder le mug. Voilà. Et puis, on prendra des nouvelles d'une autre plateforme sociale. On prendra des nouvelles de LinkedIn. Vous allez me dire peut-être, mais pourquoi on parle de LinkedIn? Il n'y a rien qui se passe sur LinkedIn. Détrompez-vous. Finalement, ce qu'on voit arriver, c'est qu'il y a de plus en plus d'influenceurs ou de CEO qui voilà, nourrissent ou développent leur marque, leur personal branding, pour pas dire personal branding, sur LinkedIn. Et donc voilà, donc LinkedIn finalement a le vent en poupe de ce côté-là, dans ce sens-là. Et il y a pas mal, enfin en tout cas de plus en plus de discussions professionnelles finalement qui se passent sur LinkedIn, aux dépens d'autres plateformes peut-être, mais voilà, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous, c'est une plateforme que vous utilisez ou pas? Est-ce que vous l'utilisez pour ce but-là ou un autre? On pourra en discuter. En tout cas, une autre nouvelle du côté de LinkedIn, si certes, il y a des discussions sur l'environnement du travail qui se déroulent sur la plateforme, ben de l'autre côté, LinkedIn n'échappe pas une nouvelle fois à réduire sa masse salariale. Ils avaient déjà annoncé qu'ils se séparaient d'une partie de leurs employés cet été. Eh ben, rebelote ici, de nouveau presque 700 employés qui vont quitter la société pour avoir une voilure un petit peu plus légère. Ça suit un mouvement plus général hein, au sein de Microsoft, justement pour se séparer de certains employés et réduire notamment les coûts dans le contexte économique que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, on terminera avec un sujet plus léger, avec l'arrivée d'un nouveau service de streaming en France. On en avait entendu parler depuis, bon, quelques années maintenant, j'ai envie de dire. On avait parlé de HBO Max. HBO Max qui n'arrivera pas en France, mais que son petit format, ou son, pas forcément son plus petit format, mais un format avec une marque un peu moins connotée, adulte, juste Max, arrivera en France en 2024. Alors, quel type de programme il y aura disponible sur cette plateforme? Comment ça fonctionnera? Quel sera potentiellement son prix? Eh bien, on pourra faire des hypothèses. Alors, on a des informations assurées en termes de type de programme. Et puis, on aura peut-être des hypothèses en regardant quel prix ils font sur d'autres marchés pour se dire quel prix ils risquent faire en France. Voilà. Donc, on terminera là-dessus. J'espère que le programme vous plaît ce matin. C'est un programme bien dodu. Juste avant de commencer, j'en profite quand même pour mentionner qu'on parlera d'un sponsor ce matin. On parlera de Axonote et on les remerciera justement de nous soutenir et de nous permettre de produire cette émission. Si vous êtes curieux sur quel est ce service, vous pouvez taper tout simplement la commande Axonote dans le chat pour en savoir plus et bénéficier de l'offre de Nowtech. Merci à eux et on se retrouve tout à l'heure pour en discuter. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article ce matin et on va revenir sur un jeu qui a marqué les esprits. On va revenir sur le jeu de CD Projekt Red. Alors, je ne sais pas comment vous voulez que je le prononce, il faut que je le prononce à la polonaise ou pas. On va peut-être rester sur la version anglaise, CD Projekt Red. Qui est donc le studio à l'origine de Cyberpunk 2077. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont en train de travailler sur une extension qui s'appelle Phantom Liberty. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, évidemment, qui dit extension, qui dit plus de contenu à produire pour enrichir le jeu vidéo et donc potentiellement des nouvelles lignes de dialogue. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe lorsque un acteur qui avait doublé un des personnages phares du jeu décède entre la sortie du jeu et malheureusement la production de l'extension, et ça laisse finalement une équipe un petit peu avec deux choix possibles. L'un, c'est potentiellement enlever l'acteur et faire complètement redoubler le personnage en question. Alors là, pour le personnage, il s'agissait de... j'essaie de vous retrouver le nom du personnage qui est le sujet, c'était... Mince, je l'avais quelque part. Bon, je ne vais pas le retrouver. C'était un... Ah, ça m'agace. Voilà. Je l'ai retrouvé. Donc voilà, on parle ici de la version polonaise, puisque c'est malheureusement un acteur polonais qui est décédé, Milogost Rezek, qui est décédé, et qui avait prêté sa voix au personnage de Victor Vector, pas mal le nom, qui est donc un charcutoc, ça donne vachement envie. Donc Victor Vector, qui est donc un Sharkydoc et qui donc fait son retour dans l'extension Phantom Liberty. Et donc évidemment, bah, les développeurs, dans un premier temps, bah, s'ils avaient pu, ils auraient évidemment fait appel au même acteur, Milogost Rezek, pour continuer à doubler ce même personnage. Malheureusement, donc la mort de l'acteur a empêché évidemment d'enregistrer les nouvelles lignes de dialogue. Et donc, en accord avec la famille, et ça c'est une précision très très importante, en accord avec la famille, ils ont utilisé une intelligence artificielle finalement pour pouvoir générer ces nouvelles lignes de dialogue. Et ça, ils ont fait appel au logiciel Respeecher qui est conçu pour cloner justement une voix. En plus, c'est évidemment assez pratique puisqu'ils avaient déjà toutes les lignes de dialogue que l'acteur avait au préalable déjà enregistrées pour le jeu, la première mouture du jeu. Et donc, du coup, bah, là, ils ont utilisé Respeecher pour créer une réplique qui est imperceptible par rapport à l'original. En tout cas, c'est la valeur proposée par le logiciel Respeecher. Et donc, du coup, là, les fils, carrément, de l'acteur ont apporté tout leur soutien ici au studio, à CD Projekt Red, quant à la reproduction de la voix de leur père grâce à une intelligence artificielle. A priori, ils disent à leurs yeux, cela permet d'honorer justement la performance de l'acteur et d'assurer un travail de préservation ici sur l'expertise et la mémoire, en tout cas, de l'acteur. Et justement, on avait notamment Mikolaj Swed, qui était en charge de la localisation de Cyberpunk 2077 en Pologne, qui avait salué justement la performance de l'acteur et qui avait mentionné que c'était un grand talent en Pologne et qu'il était incroyable. Et donc voilà, donc au lieu de faire l'alternative de redoubler toutes les lignes de dialogue par un autre acteur, et vous pourrez me dire utiliser le logiciel Respeecher, ça va éviter de rémunérer finalement un acteur et donc de le rémunérer pour redoubler toutes les lignes de dialogue. Et donc évidemment, d'un point de vue de coût pour Cyberpunk, c'est plus intéressant d'utiliser une intelligence artificielle. Bon, je pense que là, dans ce cas-là, on peut aussi prêter une bonne intention aux équipes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, ou comme ça que, en tout cas, c'est ce que je lis dans l'article de Numérama ici. C'est qu'en effet, un personnage qui était déjà connu dans le jeu, bah, on n'a pas envie qu'il change de voix d'une ligne de dialogue à l'autre. Ça, c'est juste, ça serait juste pas possible d'un point de vue de qualité. On n'a pas non plus envie de changer finalement la personnalité. Il y avait un acteur qui était identifié avec une voix identifiée, ben, l'idéal c'est de le garder. Et en plus, ils ont demandé l'autorisation à la famille. Donc je trouve ça plutôt respectueux ici dans cette démarche d'avoir eu l'accord au préalable de la famille avant de décider de faire appel à une intelligence artificielle. Donc voilà, donc ça va permettre de rester, enfin en tout cas de conserver un respect de la performance de l'acteur ici pour le jeu vidéo. Respeecher, c'est un logiciel qui est déjà connu, hein. C'est un logiciel qui a déjà servi notamment pour la série Obi-Wan Kenobi afin de créer une voix plus jeune à Dark Vador. Et on avait l'acteur américain James Earl Jones qui avait donné la voix à Dark Vador pendant 45 ans quand même, qui avait accepté justement que son travail puisse servir à des projets Star Wars. Voilà, donc ça c'est assez, assez intéressant. Alors évidemment, c'est pas tout rose avec l'intelligence artificielle, et on en a déjà parlé, c'était le risque que ça représente. Alors, on a vu le risque que représente l'intelligence artificielle pour la profession des scénaristes. On a vu le risque que ça représentait également pour les acteurs, mais également le risque que ça représente pour les acteurs de doublage. C'est la même problématique, et j'ai envie de dire, c'est encore plus facile finalement pour le doublage de malheureusement faire appel à une intelligence artificielle une fois qu'on a suffisamment d'extraits d'une voix pour l'entraîner sur d'autres lignes de dialogue au lieu de rémunérer une nouvelle performance de l'acteur en question. En tout cas, je pense que même si on n'a pas encore défini tout le cadre légal de l'application et l'autorisation de l'application de l'intelligence artificielle, là, en tout cas, Cyberpunk 2077, je trouve que c'est un bon exemple de conserver la mémoire finalement d'un acteur tout en ayant l'accord au préalable de la famille ou des personnes concernées quand c'est possible pour pouvoir faire appel à l'intelligence artificielle. Voilà. Alors là, tu me dis, Dave McFly, de toute façon, bonne ou mauvaise intention, l'intelligence va être utilisée. L'intelligence artificielle va être utilisée en masse pour décliner les voix dans les RPG d'un PNJ à un autre. Potentiellement, en tout cas, on est quand même dans une période où on explore, on ne sait pas encore où sont les limites. Et voilà. Il y aura, comme toute nouvelle technologie, il y aura des usages qui seront positifs ou négatifs. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de limiter au maximum l'impact négatif des nouvelles technologies. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et surtout, de rester ouvert au dialogue sur comment justement utiliser au mieux cette technologie sans pénaliser finalement la valeur créative de l'homme quand y a cet enjeu-là. Et je pense qu'il y a vraiment cet enjeu pour donner une personnalité à un personnage. Voilà, donc à voir. À voir. Je pense que voilà, je pense que c'est pas noir ou blanc et qu'on est encore dans cette période où on tâtonne un petit peu, quoi. Je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, l'acteur en question, je répète son nom, c'est Milogos Rezac. Je ne suis pas sûre que vous connaissez, puisque c'est un acteur qui a l'air principalement connu en Pologne. Voilà, donc pas sûr qu'on le connaisse plus que ça. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas. Donc, voilà pour, en tout cas, Cyberpunk 2077. Et on continue avec un autre article, et c'est l'article qui fait le titre de l'émission ce matin. On va parler de Airbnb. Plus précisément, on va parler de Airbnb à New York. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe à New York peut potentiellement nous donner des indications de ce qui pourrait se passer dans d'autres villes du monde. Et on pourra se poser la question notamment avec Paris. Mais qu'est-ce qui se passe du coup du côté de Airbnb à New York ? Eh bien, aujourd'hui, on a le nombre de listings, enfin le nombre d'annonces de courte durée pour la location Airbnb sur le site est tombé, en tout cas à New York, de 80%. C'est-à-dire que par rapport à août, on avait à peu près 22 430 annonces de location courte durée sur le site Airbnb, sur la plateforme Airbnb. Et depuis octobre, le 1er octobre, c'est tombé à 3227 petites annonces. Donc quand même, la chute, elle est énorme. Quand on parle d'une chute de 80%, c'est pas un détail et c'est pas anodin comme impact, évidemment, sur la plateforme Airbnb. Et pourquoi il y a eu cette chute ? Eh ben, tout simplement parce que la ville a fait passer une nouvelle loi qui a banni la plupart des annonces de courte durée qui pouvaient se présenter sur la plateforme Airbnb. Et donc, en effet, on a la ville de New York qui a essayé du coup de sanctionner ou en tout cas d'être drastiquement plus sévère afin de limiter l'abus des petites annonces à courte durée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors je rappelle, l'arrivée d'Airbnb, certes, a révolutionné secteur de la location, mais j'ai envie de dire plus largement du voyage, puisque finalement, on est passé d'un marché où, lorsqu'on voyageait, on n'avait pas le choix entre soit les auberges de jeunesse, soit je vais retrouver. Bon, il y a évidemment les hôtels, mais il y a également l'entre-deux avec des professionnels qui vont louer des plus petits logements, souvent là où ils vivent aussi, qui sont des maisons d'hôtes. Voilà, je cherchais le mot en français. Je pensais aux maisons d'hôtes. Donc voilà, on avait donc ces alternatives, ou gîtes, tout à fait, Aitif, merci. Donc on avait le choix entre les hôtels, les auberges jeunesse, ou les hôtes, enfin les gîtes ou les maisons d'hôtes. Voilà, mais on n'avait pas l'entre-deux du type crowdsurfing monétisé, c'est-à-dire dormir chez l'habitant et rémunérer ou en tout cas dédommager un minimum l'habitant lorsqu'on dormait chez lui, afin d'avoir des expériences un peu plus authentiques. Donc c'est vraiment un peu plus côté gîte ou maison d'hôte, je dirais plutôt maison d'hôte, mais encore plus petit en termes d'échelle et encore plus authentique. En tout cas, c'était la valeur proposée au lancement d'Airbnb. Est-ce qu'on y est toujours aujourd'hui? Je pense qu'en effet, c'est une question qu'on peut très honnêtement se poser, puisqu'en fait, la plupart des annonces aujourd'hui qui étaient présentes finalement sur le site étaient, voilà, c'est ce qu'on peut voir. La majorité des annonces étaient quand même faites par des professionnels qui avaient de nombreuses annonces ou de nombreux biens à louer, et donc qui a créé aussi une pénurie finalement de locations longue durée disponibles sur le marché pour les vrais habitants des villes. Et donc quand je dis ça, ça touche New York, mais ça touche toutes les grandes villes. Les grandes villes ou même les plus petites villes, donc je parle de Paris, mais on peut voir aussi qu'il y a ce problème qui touche notamment Vannes en Bretagne, qui est très prisé, et du coup les personnes qui vivent toute l'année finalement sur place ont de plus en plus de mal à se loger en location. Et donc ça, c'est un vrai, vrai problème de se dire que finalement, les gens qui vivent à l'année à un endroit n'arrivent même pas à trouver un logement adéquat, ou en tout cas, le prix des logements a drastiquement augmenté, puisque bah, plus il y a de demandes, plus on peut se permettre de, du coup d'augmenter les prix. Et donc, ce qui met les personnes qui vivent à temps complet ou toute l'année sur place dans des situations précaires. Donc voilà pourquoi, en tout cas, la ville de New York a essayé justement d'endiguer le problème et les effets de bord générés par la plateforme Airbnb. Alors, je dis Airbnb, mais ce qu'a fait Airbnb, évidemment, c'est déployer sur potentiellement d'autres services. Mais quand même, on peut dire que Airbnb reste le plus gros site ou plateforme qui propose ce type de service. Et donc, du coup, bah, New York a mis en place une législation assez sévère pour lutter contre les effets de bord de Airbnb, ce qui a en fait fait un autre effet de bord avec cette nouvelle loi. C'est ce qui a créé en tout cas un marché noir finalement des locations courte durée dans la ville. En tout cas, c'est ce que nous dit Lisa Grossman, une porte-parole d'un groupe local qui s'appelle Restore Homeowner Autonomy and Rights, qui s'appelle ROAR, joli comme acronyme. Et qui donc essaye d'opposer finalement cette loi. Et en effet, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la loi qui a finalement visé Airbnb en rendant les locations courtes durées de plus en plus difficiles à être autorisées finalement dans la ville de New York, eh ben, a créé un marché noir où finalement les personnes qui louaient ces locations courtes durées ont pris d'assaut d'autres plateformes moins visibles, mais quand même certaines qui sont très visibles, comme Facebook Marketplace. Donc on a notamment dans les plateformes, on a Craigslist, Facebook, HowFi, que moi je connaissais pas, qui sont voilà des plateformes un peu moins reconnues, un peu moins visibles qu'Airbnb, où on a des annonces qui sont plus ou moins finalement légales. L'autre effet de bord qui est généré par cette loi finalement, c'est le prix des hôtels qui augmente de nouveau, puisqu'on se retrouve sur un marché où la demande devient de nouveau très très forte pour des locations courtes durées, où voilà, les visiteurs n'ont plus le choix entre finalement l'alternative Airbnb et les hôtels. Donc très logiquement, les hôtels en profitent pour augmenter leur prix. Et donc c'est vrai que l'enquête de Wired mentionne que quand ils faisaient une recherche sur la plateforme Airbnb, le nombre en tout cas d'annonces de courte durée était vraiment limité et c'était assez disséminé finalement dans la ville à grosses pommes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Maintenant, finalement, quand on voit le ratio d'annonces sur la plateforme Airbnb, eh ben, la plupart des annonces qui sont disponibles sur le site à New York, finalement, 94% des annonces présentes sur le site Airbnb pour la ville de New York représentent finalement des séjours longue durée, c'est-à-dire des séjours de 30 jours minimum. C'est quand même assez important, 30 jours hein, quand même hein, pour louer. Aussi, ce qui demande aussi la loi qui est passée à New York, demande aux hôtes de respecter pas mal de critères, notamment ils doivent être approuvés en tant qu'hôtes de courte durée, et pour être approuvés, ils doivent respecter pas mal de conditions. Ils doivent avoir un maximum de deux invités, de deux personnes qui viennent se loger. L'hôte doit être présent sur place durant le séjour des visiteurs. Et donc, du coup, bah, ça, finalement, ça casse un petit peu le marché. Vous allez me dire, finalement, deux hôtes avec, enfin deux visiteurs avec l'hôte présent sur place, on revient finalement à l'ADN de Airbnb. Bah, potentiellement, on pourrait se dire ça, mais du coup, on se questionne sur est-ce que Airbnb est resté fidèle finalement à son approche de vivre comme un local et donc d'avoir cette connexion et cet échange entre l'hôte et les visiteurs. Finalement, ce qu'on se voit en grande majorité, c'est que les gens ont envie d'avoir la paix et qu'ils n'ont pas forcément envie de rencontrer finalement la personne chez qui ils logent. Malheureusement, en termes de recherche et en termes de marché, c'est ça. Les personnes qui recherchent un contact local représentent une minorité finalement des utilisateurs actuels d'Airbnb. C'est la réalité. Pas forcément glorieuse, mais c'est la réalité en tout cas du business d'Airbnb. Ce qui fait que le changement proposé par cette loi, bah voilà, a pour effet finalement de bannir la plupart des annonces d'appartements ou de personnes qui essayaient de vivre de cette pratique, à part ceux qui sont vraiment agréés comme les hôtels, les maisons d'hôtes, les auberges de jeunesse, etc. Mais ceux qui avaient déjà l'autorisation de fonctionner de cette manière-là. L'exemple de New York est assez parlant et on a finalement deux voix qui se posent ici. On a d'une part ceux qui défendent la loi et qui disent que en effet la loi va permettre de libérer finalement des logements à New York pour de la location longue durée, donc pour ceux qui vivent sur place, et donc potentiellement faire légèrement baisser les prix, parce que bon, ça reste New York, donc je ne vais pas anticiper quand même une grosse baisse de prix de location, mais potentiellement quand même impacter les prix, et donc bénéficier aux New Yorkers, les personnes qui vivent sur place. Et de l'autre côté, on a aussi les petits propriétaires qui veulent louer, à qui on enlève finalement un moyen de monétiser, un moyen flexible de monétiser ou amortir finalement leur logement, soit en louant un appartement, etc. Et donc, ils vont devoir louer à une partie spécifique de personnes qui va être moins rentable, finalement. Bon, moi, je pense que ça vaut la peine de voir. Je pense que la manière dont on l'a fait New York, je comprends que ça déplaise, finalement, aux propriétaires parce qu'ils vont quand même moins se faire d'argent. Mais à voir. En tout cas, l'autre problème que je pense qui est réel, c'est pour les visiteurs, les visiteurs qui vont avoir moins de choix et qui vont du coup être un peu pris en otage par les hôtels peut-être, ou potentiellement qui vont avoir comme effet de bord de se rediriger vers des plateformes moins sécurisées sur ce marché noir finalement qui existe encore. La question, c'est comment la ville de New York va réussir à lutter finalement contre ce marché noir. Et est-ce que les gens vont continuer à utiliser ce marché noir parce que du coup, les droits des hôtes et les droits des visiteurs vont être moins garantis puisque ce sont des plateformes qui n'ont pas tout le système en place de Airbnb. Donc ça, c'est vraiment le point d'interrogation sur cette information, quoi. Et donc du coup, très logiquement, Airbnb s'est un peu détourné, ou en tout cas un peu détourné son attention de New York, plus grand intérêt pour eux quand on sait que ça représente 2 ou 3 000 annonces finalement au total pour une ville aussi importante que New York. Mais par contre, le regard de Airbnb se tourne où ? Évidemment, Paris. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024, évidemment, tous les yeux vont être tournés sur Paris et ça va être un marché assez important pour Airbnb en 2024. Et donc, du coup, ça va être assez intéressant parce que je pense que justement, la ville de Paris n'a pas ignoré cet enjeu-là. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment ça va se dérouler, comment ça va se passer le logement sur place à Paris, comment vont se passer les prix. On a déjà eu des plaintes sur des prix exorbitants. Alors, certes, au niveau des billets, mais potentiellement en termes de logement aussi. Donc ça sera assez intéressant de voir comment Paris, cette fois-ci, aborde le sujet. Voilà. En tout cas, quand il s'agit de proposer un hébergement authentique, accueillant sur Airbnb, bah, on peut se poser vraiment la question si c'est vraiment le cœur de business aujourd'hui de la plateforme. Quand on voit qu'on doit braver des prix mirobolants, des frais incohérents, des corvées de départ à n'en plus finir, ainsi que des photos, des descriptions dont on peut douter de la fiabilité ou de la véracité quand on se retrouve un peu sur place. Donc, on a de plus en plus de clients un peu furieux qui le disent haut et fort, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, et des municipalités ou des villes qui serrent de plus en plus la vis à la plateforme. Et donc, du coup, bah, on le voit avec l'exemple de New York, hein, qui a frappé fort en interdisant de facto la quasi-totalité des locations à court terme, avec notamment la disparition suite à ça de à peu près 15 000 annonces. Et comme je disais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un modèle révolutionnaire. Mais dès 2011, quand même, parce que c'est un service qui est arrivé quand même en 2008, donc c'est pas récent, hein. Mais dès 2011, la plateforme Airbnb totalisait 1 million de nuitées. Donc c'est pas mal. Et notamment, depuis 2015, le nombre d'annonces sur la plateforme aux États-Unis est passé de 150 000 environ à près de 1,5 million. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes de marché. Voilà. Et donc du coup, c'est ça, l'essor de la plateforme l'a amené finalement à s'éloigner de sa proposition de valeur d'origine. Et au-delà des conflits entre propriétaires et locataires, ça a poussé les pouvoirs publics à intervenir, comme on l'a vu du coup en France. Et malgré un fonctionnement désormais très semblable finalement à celui des hôtels, les logements Airbnb ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires. Et donc du coup, ce qui a amené New York à amener ses propres restrictions, et notamment on a aussi Washington, hein, qui a mis en œuvre des restrictions l'année dernière en imposant l'obtention d'un agrément pour faire de la location à courte durée et en interdisant justement ces agréments aux résidences secondaires notamment. Voilà, donc à voir, mais c'est vrai que les résidences secondaires finalement bénéficient à une partie de la population qui a les moyens finalement de s'offrir une résidence secondaire, mais va pénaliser encore une fois les personnes qui vivent toute l'année sur place, qui ne vont plus pouvoir se permettre finalement de pouvoir louer ou vivre dans leur ville, tout en ayant des logements qui sont un peu fantômes puisqu'ils ne sont pas habités finalement la plupart de l'année, quoi. Donc c'est vrai, ça crée un déséquilibre de force. Mais en tout cas, là où Airbnb reste intéressant, c'est lorsqu'on voyage en famille ou en amis, donc à un nombre un peu plus élevé. Et c'est vrai que Airbnb reste un moyen moins cher, quand on regarde le prix par personne, par rapport à un hôtel, de pouvoir se loger, donc de pouvoir aussi voyager. Donc ça, c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant. Et depuis mai, on voit que la plateforme essaye aussi de lutter contre les contournements des annonces, qui essayent de proposer des prix à la nuit peu chers, mais qui finalement, quand vous allez sur l'annonce, proposent des frais de ménage tellement exorbitants qu'en fait, le prix à la nuit devient inintéressant. Et ça, c'est tout simplement parce que lorsque vous regardez une liste d'annonces sur Airbnb, le prix par défaut affiché est uniquement le prix à la nuit, sans prendre en compte les frais de ménage. Et donc, du coup, c'est ça que moi, j'ai eu comme expérience récemment, c'est que tu perds ton temps sur Airbnb parce qu'en fait, tu ne peux pas comparer facilement les prix puisqu'en fait, les frais de ménage varient largement d'une annonce à l'autre. Et donc là, depuis mai, ils ont sorti une fonctionnalité ou en tout cas un filtre qui permet de paramétrer sa recherche pour afficher le prix, prenant en compte le prix total et donc incluant les frais de ménage. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils ont également lancé Airbnb Chambre pour revenir un petit peu plus à leur ADN d'origine, au modèle original de séjourner directement chez l'habitant, mettant l'accent sur un prix doux et la convivialité. À voir si c'est une fonctionnalité qui va prendre. Je pense qu'elle va prendre potentiellement chez les plus jeunes, étudiants ou jeunes actifs, puisque à ce moment-là, c'est vrai que c'est plus sympa, on est en recherche. Quand on est un peu plus âgé, on va vouloir chercher plus de tranquillité et pas forcément, on a notre cercle d'amis déjà établi, on va pas forcément chercher à rencontrer activement des gens. Donc voilà, y a aussi ça qu'on cherche à différents moments de notre vie. Hein. Donc, puis bon, il y a quand même d'autres profils. Donc à voir. Moi, je suis assez curieuse de voir les chiffres de Airbnb Chambre, quoi. En tout cas, tout ça montre finalement qu'il y a des signes que l'économie collaborative vole un petit peu en éclat, ou en tout cas que le modèle n'est pas adapté pour tous, et que l'économie collaborative à grande échelle aussi pose une question. Est-ce qu'elle est vraiment viable? Est-ce qu'elle arrive à se maintenir? En tout cas, quand je regarde Airbnb, j'ai pas forcément l'impression. Et donc, du coup, c'est pas forcément le fait que... l'économie collaborative, c'est pas forcément... Et cette question de est-ce qu'elle est viable ou pas, c'est pas forcément lié à une décision de Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, ou le fait de comment dire, de démarrer par une activité de débrouille entre guillemets de petite échelle, etc., pour se développer sur un modèle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a... Enfin, j'ai du mal à m'exprimer ce matin, excusez-moi, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Airbnb a démarré avec un modèle de débrouille, entre guillemets, critiquant le business model établi des hôtels, etc., pour réintégrer un petit peu de l'authenticité, de la convivialité sur la manière dont on voyageait, pour finalement répliquer le système même qu'elle critiquait, c'est-à-dire le système d'hôtel, etc., plus impersonnel, plus confortable, entre guillemets. Et donc, du coup, bah, c'est le problème, c'est qu'elle essaye de faire les deux à la fois. Et c'est là où je pense que le modèle d'Airbnb ne peut pas faire forcément les deux à la fois. Et c'est vrai que moi, je me pose des questions. Et quand on essaye de voyager avec Jérôme, on regarde toujours un peu sur Booking, sur Airbnb, etc. Et en fait, on se rend compte que les listes d'annonces se ressemblent de plus en plus. C'est-à-dire, on va retrouver presque des hôtels des fois sur Airbnb, mais clairement, on va retrouver des maisons d'hôtes ou des appartements à louer, etc., de professionnels, alors que sur Booking, on va les retrouver aussi. Et donc, du coup, finalement, l'intérêt de Airbnb baisse. Et donc, du coup, la différenciation aussi. Donc, c'est là où on peut se poser la question, est-ce que ça fait sens, finalement, pour Airbnb de continuer à essayer d'être présent sur les deux modèles ? C'est-à-dire modèle de convivialité avec des hôtes qui ne vivent pas forcément de cette location, et versus des professionnels qui en font un business, qui en font un revenu complémentaire au quotidien, etc. À voir. À voir. En tout cas, je pense que cette tension naît d'essayer de tout faire à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom? Je vais lire un petit peu vos commentaires avant de passer à l'article suivant. J'ai vu passer un article qui dit que pour le PLFS, je ne sais pas ce que c'est, le PLFS 2024, ils veulent aligner les locations meublées courte durée à la location nue pour rendre fiscalement moins intéressante la location en meublé de courte durée. Oui, c'est vrai qu'il y a des avantages fiscaux à la location meublée courte, enfin à la location meublée. Après courte durée, je ne sais pas. Ouais. Aliasu nous dit, ma ville avait passé un décret pour limiter à Airbnb, mais annulé quasi directement par le tribunal d'instance. D'accord. Intéressant. Corvée de départ à Paris, remettre les punaises de l'île là où il les a trouvées en entrant. Ah, le troll bien placé d'Olek. C'est vrai que... C'est vrai que Paris est connu pour les punaises de lit. Hein. Je peux vous dire que je me suis entretenue avec des candidats pour mon travail, parce qu'on recrute avec des candidats même étrangers, et notamment une personne qui était à Berlin. Et la première question qu'elle m'a posée, elle fait, est-ce que ça va au niveau des punaises de lit, c'est pas trop galère? Et en fait, bon bah nous pour l'instant, je touche du bois, on a de la chance de pas être impacté personnellement, mais c'est vrai que c'est un peu le stress, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les punaises de lit dépassent les frontières de la France en termes de réputation. La location Airbnb, c'est plus rentable que la location longue durée, mais aussi beaucoup plus de travail. Changement de drap, ménage, meubles, connexion Internet. Tout à fait, Anaïs Cerise. Tout à fait. Et en fait, c'est ça un petit peu la difficulté d'Airbnb. C'est que d'un côté... c'est plus rentable, c'est plus cher parce que tu fournis plus de services qu'une location longue durée, entre en effet le ménage, le changement de drap, etc., la connexion Internet que tu vas payer, puisque c'est un service auquel tu donnes accès et compagnie, potentiellement des fois des services de streaming auxquels tu donnes accès sur place. Finalement, c'est là où des personnes vont trouver ça plus malin de développer un business autour de ça pour sous-traiter finalement la gestion des draps, du ménage, de toute cette logistique autour de ce logement à une société externe et qui donc dénature finalement la valeur première d'Airbnb qui était de recréer du lien entre l'hôte et les visiteurs. Parce que ça donne quand même beaucoup de boulot à l'hôte. Et voilà, donc je dis pas qu'on a trouvé qu'il y a une solution facile, idéale, etc. Je pense juste qu'en effet, il faut être plus sévère sur les résidences peut-être secondaires ou pour ceux qui essayent d'en vivre. Pour moi aussi, je vois une. Enfin, voilà, donc. Je pense que soit tu es un professionnel de l'hôtellerie. Soit tu es quelqu'un qui va essayer d'amortir finalement son quotidien ponctuellement, c'est-à-dire pas louer toute l'année, mais ponctuellement pour pouvoir avoir un revenu complémentaire. Mais je pense qu'il y a des limites à placer pour éviter de créer les effets de bord négatifs que l'on voit sur le marché du logement qui est complètement étouffé pour les personnes qui vivent à l'année dans ces villes, quoi. Et le risque qu'il y a aussi du marché noir qui se crée sur ces locations courte durée. Une loi dans ce style a été adoptée à Bayonne. Les propriétaires doivent proposer un logement à l'année s'ils proposent un logement Airbnb, à voir ce que ça donne dans le futur. Ah d'accord. Ok. Très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour. PLFS, plan de financement de sécurité sociale. Ah d'accord, merci Brisby pour la précision. Un grand merci à toi. Très bien, très bien. J'en profite avant de passer à l'autre article pour remercier quand même les personnes qui nous soutiennent ce matin pour l'émission. Un grand merci à Julien pour ton soutien. Un grand merci à RG065, à Florian38130, à Aliens24 et à Eros pour vos soutiens. Un grand merci à vous tous. Ça fait chaud au cœur. Elles sont incomprises, ces petites punaises. Faut bien qu'elles mangent. Non. Non, merci. On enchaîne avec le prochain article et c'est une petite news puisque je voulais vous parler de Atlassian, la société mère derrière les services du type Jira et Confluence qui donne des outils, de tickets et de tracking pour les tâches à gérer et notamment pas mal utilisées dans la communauté ingénieur engineering et des développeurs. Voilà, c'est la même chose pour moi. Et puis Confluence, c'est un outil, j'ai un doute. J'en ai entendu parler notamment pour gérer les dépenses de voyage, etc. Votre espace de travail d'équipe en télétravail. Mmh. Très bien. Bon, c'est un outil de collaboration, quoi. Un logiciel de travail collaboratif. Voilà, donc c'est des outils B2B ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, Atlassian a annoncé qu'ils allaient racheter le service de messagerie vidéo. Enfin, c'est pas forcément de la messagerie vidéo, mais un petit peu. C'est Loom, vous permet à la fois d'enregistrer votre écran et de vous enregistrer en même temps en train de parler sur ce que vous montrez. Donc, ça permet de faire des démos ou des présentations avec à la fois votre tête filmée qui parle avec le son de votre voix et également soit les slides, soit le produit qui est montré derrière dans la vidéo. Donc, c'est ultra pratique, pour être honnête, pour partager des messages, faire des démos, faire des présentations, etc. C'est vraiment super, super pratique pour s'enregistrer. Moi, j'utilise, plusieurs fois par mois, je dirais pas plusieurs fois par semaine, mais plusieurs fois par mois au moins. Et donc, c'est vrai que c'est très, très pratique. Et notamment, moi, j'utilise beaucoup, enfin, là où j'utilise, c'est dans mon travail. Donc, c'est très logique, en effet, que Atlassian, du coup, qui veut se positionner sur la collaboration au travail, se dote d'un outil pareil d'enregistrement d'écran et de partage d'écran. En effet, c'est ce que dit Holocat, ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est peut-être le prix, la valorisation de Loom. Donc là, leur achat se fait pour une hauteur de 975 millions de dollars. La même société qui est finalement en mai 2021 avait été valorisée à 1,53 milliard de dollars. Donc voilà, donc, quand ils avaient annoncé leur nouvelle levée de fonds. Donc, en effet, le paysage tech a pas mal changé. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'ils ont 25 millions de clients aujourd'hui, avec 5 millions de conversations vidéo par mois, voilà, pour montrer. Alors, pourquoi on parle de conversations vidéo ? Parce que Loom, non seulement vous permet de vous enregistrer, mais permet également aux personnes qui visionnent la vidéo de réagir par commentaire à des moments précis de la vidéo. Donc, c'est vrai que ça crée un petit peu de... ça crée de l'interaction directement sur le contenu vidéo que vous partagez. Vous pouvez savoir qui a regardé ou pas, voir des data aussi là-dessus. Et donc, du coup, c'est assez évident que Atlassian voit en Loom un outil de collaboration super intéressant à ajouter à leur suite d'outils Jira et Confluence. Et ils disent d'ailleurs, on a le cofondateur d'Atlassian et le co-CEO, Mike Cannon Brooks, qui s'est exprimé sur le sujet. Et il a dit notamment, la vidéo async, donc asynchrone, c'est-à-dire pas en temps réel, et la prochaine évolution de la collaboration de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on fait équipe avec Loom pour aider les équipes qui sont distribuées, c'est-à-dire pas au même endroit, mais pas mal en télétravail, à communiquer de manière humaine. Et c'est vrai que c'est marrant qu'ils disent la vidéo asynchrone et la prochaine étape de la collaboration de l'équipe. Ce serait bizarre parce que moi, ça fait partie de mon quotidien depuis plusieurs années, finalement. Et donc, je trouve ça assez étrange de dire c'est la prochaine étape parce que pour moi, ça me semble déjà acquis dans mon quotidien. Du coup, ça m'amène à vous poser une question dans la chatroom et on va faire un petit sondage parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis et votre expérience. Hop. Et donc... alors, comment je pourrais poser la question ? Ça ne me va pas la manière dont j'ai formulé. Ok, donc voilà, j'ai ma question. Je vais y arriver. Hein. Je suis un peu rouillée sur les sondages. Hop. Et on va mettre 2 minutes hein, parce que c'est un petit sondage. Hop, voilà. Donc le sondage est là. Utilisez-vous des outils comme Loom pour le travail ? Et donc, quand je dis utilisez-vous, je dis vous, vos collègues, votre boîte. C'est pas forcément vous personnellement, mais est-ce que vous avez affaire à ce genre d'outils au quotidien pour communiquer entre vous ? Et donc, voilà. Donc, utilisez-vous des outils comme Loom pour le travail ? Donc, il y a quand même une majorité qui dit jamais. Intéressant. Et pour ceux qui disent jamais, est-ce que c'est parce que vous ne connaissiez pas la possibilité de ça ? Est-ce que vous n'en avez pas l'utilité parce que finalement, vous êtes tous dans les mêmes bureaux ? Comment ça se passe ? Parce que c'est marrant, parce que même pour moi, je ne vois même pas une utilité qui se limite au télétravail. C'est-à-dire que comme on documente les décisions que l'on prend sur toutes les sujets de la boîte, ça peut être des sujets, enfin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le business de la boîte ou la stratégie ou des sujets RH, etc., ou de la finance et compagnie. Et c'est vrai que ou de la formation, c'est vrai qu'on utilise souvent ce genre d'enregistrement pour pouvoir garder finalement le contenu et pouvoir le revoir, le reconsulter si besoin, ou se former au moment venu quand on en a besoin, quoi. Au lieu de former tout le monde à un moment donné, oublier la formation, ce qu'on a appris sur la formation d'un outil parce qu'on l'utilise pas à ce moment-là, et que quand du coup le moment où on doit utiliser un outil, on est un peu paumé parce que finalement on sait plus, on se souvient plus de la formation. Donc finalement à la place, ce qu'on fait, c'est souvent on documente ces espèces de formations pour que ça soit disponible quand on pose des questions, quand on cherche du contenu sur un logiciel donné, quoi. Mais ça, on le fait pour faire aussi des démos produits, un peu pour tout et pour tout ce qui peut être utile. Donc, ce qu'il remporte sur le sondage, c'est le jamais. Donc, ça confirme la déclaration du cofondateur d'Atlassian, finalement, que c'est le futur, peut-être, de la collaboration, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas utilisé par la majorité des gens. Donc, 73% ont répondu. Donc, 56 personnes, hein, quand même. Hein, 56 personnes, 56 d'entre vous ont dit jamais utiliser ce type d'outil dans leur environnement de travail. Ensuite, c'est quand même 9 personnes qui ont répondu souvent, 8 qui ont répondu parfois et 4 qui ont répondu rarement. Donc, voilà. Donc, c'est quand même peu. C'est quand même peu. Hein. Intéressant. Ça valait la peine pour le coup de faire le petit sondage. Je regarde un peu vos commentaires sur le sujet. C'est un équivalent de Notion. Bah, Notion, c'est de la documentation écrite. Jusqu'ici, je n'ai pas vu Notion sortir d'enregistrement vidéo. Mais je me trompe peut-être. Mais par exemple, moi, j'utilise de manière combinée, des fois, Notion et Loom. C'est-à-dire, je vais enregistrer une démo produit ou une présentation, etc. Et ensuite, je vais mettre la vidéo en embed dans Notion pour qu'on puisse la trouver plus tard. Parce que c'est vrai que Loom, c'est pas un endroit où on va proactivement chercher du contenu. C'est juste une plateforme de liens, finalement, de liens déjà partagés. Donc les vidéos, elles sont accessibles ailleurs. Elles sont partagées dans des documents, dans des discussions, dans Notion, enfin voilà, ou sur Slack. Flo Floun nous dit déjà utilisé pour un débrief créé avec un graphiste qui était à distance, ouais. Je ne connais pas et aucune utilité pour 5 salariés. À voir, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'à 5 salariés, c'est petit. Mais c'est vrai que si ça grossit ou si t'as l'impression des fois de te répéter, c'est typiquement le genre de choses que tu peux documenter finalement pour éviter de te répéter à chaque fois. Nous, on est sur Jira et on utilise aussi Loom. Du coup, Banco, pour nous, ça sera peut-être moins cher. Faux espoir. Genre, on ne sait pas, hein. On ne sait pas pour l'instant. Je regarde un peu vos commentaires. Nous, on utilise Teams et on enregistre le partage d'écran. Oui. Mais Teams, ça sous-entend que vous êtes plusieurs. Enfin, il y a à moins que tu puisses le faire directement sur Teams en tant que tel, sans être dans un espèce d'appel groupé. Et l'intérêt de Loom, c'est que t'as pas besoin d'être dans un appel entre guillemets. C'est juste tu t'enregistres toi-même, quoi. Mais je connais pas assez Teams. Peut-être qu'ils ont quelque chose de similaire. Ça serait pas étonnant. Hein. Je me demande si c'est pas des outils accès dev. Chez nous, c'est uniquement l'équipe dev qui utilise ces outils. Bah, écoute, Ouli, en tout cas, moi, chez Alan, on l'utilise dans tous les secteurs. Notamment, tu vois, il y a chaque équipe ou business unit qui a débriefé sur où est-ce qu'on était, sur comment on avait performé sur le quarter précédent pour faire le point avant le prochain quarter et ou ensuite de partager leur stratégie pour le prochain quarter. Et donc, du coup, on a une vidéo de 2 minutes pour chaque business unit pour rapidement voir où est-ce qu'on en est avec des petites slides partagées pour récapituler les points importants avec une personne qui en parle en même temps. Et donc, c'était hyper pratique pour, en 6 minutes, t'as une vue globale des différentes business units qu'est-ce qu'on prévoit pour le focus du prochain quarter, quoi. Ce qui peut varier entre que de la documentation écrite, qui est quand même la base, en tout cas de ma boîte, où l'écrit est vraiment central, et à la fois pouvoir avoir des vidéos qui sont des fois un peu plus digestes et qui permettent de contrebalancer et de rythmer un peu plus, quoi, la diffusion de l'information. Je suis en full télétravail dans une entreprise internationale et on utilise Zoom, on enregistre les sessions pour les absents. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, en fait, petite cravate. Il y a vraiment une différence entre enregistrer une session groupée et s'enregistrer seul en train de faire une démo ou une présentation ou de débriefer sur quelque chose pour ensuite le partager à la personne ou les personnes qui en auront besoin. C'est plutôt ça, Luma. C'est pas forcément des appels vidéo groupés que vous enregistreriez, parce qu'en effet, tu as Zoom, tu as Google Meet. C'est plutôt de la démo solo que tu partages ensuite. Exactement, Aitif, pour les reviews business. Ouais, alors on fait des all hands. Nous, on en fait une fois par mois. En effet, on fait des all hands aussi. Mais des fois, tu as des moments clés qui tombent pas au moment du all hands prévu. Et donc, du coup, c'est un autre moyen de le partager. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mon avis, aussi inutile que Aircall, où on crée des services qui n'apportent presque aucun intérêt, mais qui pèsent lourd à l'électricité. Bah, Aircall, c'est un service de c'est un service client, non ? De téléphonie, de mémoire. Pourquoi tu dis que ça n'a pas d'intérêt ? C'est un système de téléphonie, c'est ça ? Bah, en tout cas, certaines boîtes ont ce besoin. Je dirais pas que ça ne sert à rien. Je trouve un peu huge 69090009. Je te trouve un peu sévère quand même. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de l'intérêt de Aircall. Mais voilà, en tout cas pour Loom. Et donc pour ceux qui s'en réjouissent parce qu'ils l'utilisaient déjà avec les outils de Atlassian, eh ben pour vous ça sera un win-win a priori. Et donc du coup, à savoir autre chose intéressante avant de passer à l'article suivant, c'est que ils vont avoir un focus évidemment sur l'intelligence artificielle afin de pousser d'autres fonctionnalités qu'on a vues d'ailleurs sur d'autres services similaires à Loom, c'est notamment des transcripts de vidéos, c'est-à-dire pouvoir avoir l'équivalent écrit de ce qui est mentionné à l'oral durant la vidéo, donc ça c'est assez pratique, avoir des résumés également, avoir des documents ou des workflows qui sont développés en fonction de du partage vidéo donné. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Je pense que c'est assez malin de la part d'Atlassian. En tout cas, pourquoi Loom s'est fait racheter ? Parce qu'en effet, je pense que le business model de Loom en service solo ne fonctionnait pas très 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 bien. En fait, moi je le vois, hein, Loom en version gratuite était largement suffisante pour moi. Et donc du coup, je pense que la majorité finalement des utilisateurs qu'ils avaient n'étaient pas payants. Voilà, ils ont quand même une formule gratuite qui est quand même assez intéressante. Et je pense que trop d'utilisateurs étaient gratuits et pas assez étaient dans la catégorie payant. Et donc, on avait vu notamment en juin dernier, Loom s'était séparé notamment de 14% quand même de ses employés. Donc, c'est pas étonnant finalement qu'ils aient pris la décision là de faire l'acquisition. Et je pense que c'est assez logique, moi, d'un point de vue stratégique pour eux. Je vous propose de continuer avec le prochain article. C'est une petite news, mais ça valait quand même le coup de le mentionner aussi pour Twitch. Alors, vous l'avez compris, hein, je l'ai dit lors du sommaire, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, Twitch a annoncé que la plateforme allait se doter de Story sur l'application mobile notamment. Donc, fonctionnalité très très similaire avec ce qu'on est déjà familier, notamment sur les plateformes type Snapchat et Instagram, les autres plateformes de réseaux sociaux. Et donc du coup, ça va permettre aux streamers sur Twitch de partager des photos, des textes, des clips qui expirent après 48 heures et surtout avec une durée, je pense, limitée. Je sais pas l'information de la durée possible pour la story, mais elle doit être courte. A priori, c'est une des composantes des stories. Et donc du coup, la manière dont Twitch présente l'intérêt des stories pour leur plateforme, c'est que ça va permettre aux créateurs d'atteindre et de rester connectés avec leur communauté lorsqu'ils sont pas en train de streamer. Ce qui est assez logique, pour être honnête, et pas vraiment révolutionnaire. Hein, voilà, donc moi, je trouve ça assez, assez intéressant. Et en effet, je pense que Twitch a tout intérêt à essayer de développer la communauté et de devenir une plateforme incontournable pour animer, développer et nourrir leur communauté sur Twitch même, au lieu pour les créateurs de devoir utiliser toute une panoplie finalement de réseaux sociaux pour rester en contact avec leur communauté. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'entends les créateurs parler, ben, ils ont souvent Twitch, ils ont également Twitter, ils ont également Instagram, ils ont également un espèce d'outil comme Slack ou Discord pour animer leur communauté. C'est épuisant. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'à l'époque, YouTube avait sorti l'onglet communauté aussi. C'était pour garder finalement cet aspect de nourrir ou d'interagir avec la communauté directement sur YouTube. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez, assez logique. Merci Camille et bonne journée à toi. Donc voilà. Pour l'instant, la fonctionnalité avait déjà été évidemment annoncée en juillet. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait son arrivée directement sur la plateforme. Alors, la possibilité de créer ces stories sur Twitch, elle va être limitée dans un premier temps aux partenaires ou aux affiliés qui ont au moins un stream dans les 30 derniers jours. Mais cependant, tous les utilisateurs de la plateforme, après avoir mis à jour évidemment leur application mobile Twitch, vont pouvoir avoir accès à ces stories créées par les affiliés ou les partenaires. Donc voilà, donc ce qui est logique, c'est que Twitch, dans un premier temps, va limiter ceux qui peuvent créer des stories, mais ne va pas limiter ceux qui peuvent avoir accès aux stories. Évidemment, le principe, ça veut d'avoir une audience importante, de développer l'audience. Donc, c'est assez, assez logique comme aspect. Les créateurs qui ont au moins 30 souscriptions, notamment ceux qui ont des gifts en sub, hein, vont pouvoir aussi limiter certaines stories à uniquement leurs abonnés. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir, évidemment, on va pouvoir récompenser de manière différente ceux qui soutiennent la chaîne ou ceux qui ne soutiennent pas pour pouvoir donner une motivation supplémentaire finalement de soutenir le créateur sur Twitch, c'est d'avoir accès à ces stories exclusives finalement pour les abonnés, ceux qui soutiennent. Donc c'est assez, assez malin aussi de ce côté-là. L'application mobile prévoit de pousser des alertes aux followers aux abonnés quand un streamer poste une nouvelle story. Mais évidemment, rassurez-vous, il va y avoir aussi un réglage disponible pour gérer justement ces notifications parce que le but, ce n'est pas non plus de spammer les personnes qui suivent différents créateurs sur la plateforme. Bref, assez malin, assez logique de la part de Twitch. Donc, c'est plutôt cool de ce côté-là. Donc, ça risque d'être assez, assez intéressant de voir si ça va être utilisé, si ça prend ou pas sur la plateforme. Je suis assez curieuse. Est-ce que vous, sur la chatroom, c'est quelque chose que vous seriez prêt à engager ? Rapidement ? Moi, je vais direct sur les streams qui m'intéressent. Ouais, mais par exemple, Anthony, si tu as un créateur qui ne stream pas à l'heure actuelle, mais qui a posté une story, est-ce que tu serais intéressé par la regarder ? C'est ça, finalement, la question. Je trouve ça bien. Oui, ça comble le creux quand on stream pas. Anthony Dunimon, je trouve que c'est très bien comme ça. Pourquoi pas? Un grand merci à Monde de Jeux pour le raid. Un grand merci et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous rejoignez l'émission matinale Le Mug où on discute de l'actualité tech. Voilà, donc là, on discute notamment de l'arrivée sur Twitch des stories qui va permettre aux créateurs de partager des stories avec leurs abonnés. Donc un grand merci à ceux qui nous rejoignent et bienvenue. Intéressé par la regarder, mais je ne sais pas pourquoi pas. Oui, c'est que les streamers pour l'instant qui peuvent créer les stories, notamment les affiliés et les partenaires. Donc, c'est assez restreint pour l'instant. Et ceux qui ont streamé dans les 30 derniers jours. Après, c'est normal hein, que ça soit restreint pour une première étape. Ça va très certainement être élargi une fois que le test sera terminé. Holmes nous dit non, aucun intérêt. Tu es radical. Ok, bah écoutez, à voir. à voir si on a des données qui sont partagées sur l'adoption ou pas de la fonctionnalité. On en parlera évidemment dans le mug. On enchaîne avec l'autre article que je voulais vous parler, un autre réseau social. On va parler de LinkedIn. Et qu'est-ce qui se passe sur LinkedIn ? Eh ben, il y a un article du Financial Times qui est assez intéressant et qui note notamment une tendance où l'on voit que les influenceurs et les CEO, donc les patrons d'entreprise, ramènent leur brand, leur personal brand, leur marque, donc, sur LinkedIn. Donc ça, c'est une tendance assez intéressante. Et notamment, on a des témoignages, notamment du marketeur Zain Kane, qui dit qu'il a gagné plus de 1 million de dollars cette année en revenus publicitaires et ça en remerciant notamment les centaines de milliers de followers qu'il a notamment sur le réseau social. Donc ça, quand il dit réseau social, ici, c'est LinkedIn spécifiquement. Et donc, il ne pousse pas forcément des produits comme font les personnes sur TikTok ou Instagram. Il est juste sur un nouveau type d'influenceur ici, et notamment sur la plateforme LinkedIn. Il a construit tout simplement une communauté d'abonnés sur LinkedIn. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas faire de l'argent directement sur LinkedIn, mais il utilise LinkedIn pour promouvoir sa newsletter sur l'intelligence artificielle, et ce qui va attirer des annonceurs. Sa newsletter va attirer des annonceurs pour être mentionné dans cette newsletter qui est partagée je ne sais pas spécifiquement à quelle fréquence elle est partagée, cette newsletter, mais il y a des newsletters qui sont mensuelles, qui sont hebdomadaire, etc. Moi, je peux vous partager un exemple. Je suis plusieurs newsletters sur à la fois la santé et la tech pour suivre un petit peu les grandes annonces de ces secteurs. Et ça arrive dans ces newsletters-là qui sont reconnues, de personnalités reconnues. On a notamment Benedict Evans, qui est quelqu'un que je suis beaucoup et j'admire beaucoup sa perspective sur la tech. Des fois, il a des annonceurs. Il me semble qu'il a déjà eu des annonceurs dans sa newsletter. Pas tout le temps, mais il me semble qu'il en a déjà eu. Ou sinon, il y a d'autres personnes que je suis en newsletter où là, je me rappelle que chaque semaine, ils ont un annonceur, mais j'ai perdu le nom. Et donc, du coup, vous avez la newsletter qui commence finalement par l'annonceur, par la présentation de l'annonceur et qu'est-ce qu'ils font. Et donc, c'est des newsletters sponsorisés, tout simplement. Et donc là, c'est ce qu'il dit, hein, c'est son business model. En fait, il va avoir une newsletter qui va être sur un domaine plus professionnel, finalement, qui va s'adresser à une audience plus professionnelle, B2B, ou de personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et l'application de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et donc, du coup, c'est assez logique, du coup, qu'il utilise finalement LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, pour faire la promotion de cette newsletter. Et donc, finalement, c'est que ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est vrai que cette plateforme, donc LinkedIn, qui a été rachetée par Microsoft, hein, et qui, à l'origine, était plutôt sur de la recherche de postes et du réseautage, est vraiment en train de se transformer en plateforme privilégiée pour les utilisateurs qui sont vraiment centrés sur leur carrière. Et ça peut arriver, hein, à certains moments de votre vie où vous avez des ambitions pour votre carrière particulièrement fortes. Et donc, vous allez plus investir sur ce type de plateforme professionnelle et vous allez peut-être tomber dans ce type de personnes qui vont partager du contenu aspirationnel sur comment développer sa carrière, comment collaborer plus efficacement avec ses collègues, comment développer son impact au sein de son travail, etc. Et donc, partager son expérience et développer finalement son expertise professionnelle, sociale, networking sur la plateforme. Alors, il y a cet aspect-là que l'on peut tourner de manière positive. Et puis après, il y a le personal branding, mais qui peut se faire sur LinkedIn, mais ailleurs aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que LinkedIn qui est responsable de ça. Moi, je trouve que des fois, il y a pas mal de bullshit dans les posts qui sont partagés sur LinkedIn. Il y a une espèce de culte, du positivisme inspirationnel qui est des fois un peu vide de sens et qui est un peu épuisant. Voilà, donc j'avoue que Moi, LinkedIn, c'est pas. Après, je suis pas à un moment de ma vie où je recherche activement, où je réseaute activement. Je vais réseauter pour des profils que je trouve particulièrement intéressants ou qui pourraient être intéressants dans le cadre de mon travail pour partager nos expériences, etc. Voilà, en termes de design, de product design ou d'équipe design ou de santé, de tech. Voilà, sur tous ces enclés, sur ces enjeux-là, parce que c'est les enjeux qui, moi, m'intéressent personnellement à l'heure actuelle. Mais je vais pas passer du temps à poster. La seule chose que je fais, c'est je partage en effet sur LinkedIn quand j'interviens dans des événements liés à mon travail. Donc ça peut être quand je participe à des podcasts ou à des événements design, etc. Je vais le partager également sur le réseau LinkedIn quand je participe à une formation de design, parce que c'est aussi ce que je fais. Donc voilà, donc là en effet, je le partage activement sur LinkedIn parce que l'audience est celle que je vise. C'est l'audience professionnelle. Voilà. Et donc du coup, en effet, c'est là que LinkedIn a finalement réussi un espèce de pivot intéressant finalement, où ça devient la plateforme privilégiée pour nourrir finalement ce réseautage professionnel et cette réputation professionnelle. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant et il y a de plus en plus finalement d'influenceurs professionnels qui se développent sur cette plateforme et qui arrivent à finalement, alors je ne sais pas s'ils arrivent à en vivre, parce que ce n'est pas forcément ce que dit l'article, mais en tout cas à avoir un impact. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, LinkedIn est utilisé pour connecter avec potentiellement une entreprise qui nous intéresse pour postuler et on va peut-être utiliser LinkedIn pour envoyer un message privé pour un premier contact à une personne qui va gérer les recrutements ou une personne qui va être dans l'équipe qui nous intéresse d'intégrer, etc., pour faire un premier contact. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je me verrais faire, en effet. Tout à fait. Donc, il y a quand même cet aspect-là où aussi la personnalité ou l'aura du CEO et ce qu'il va partager, notamment CEO ou équipe fondatrice, hein, ce qu'ils vont partager sur LinkedIn va potentiellement influencer positivement la perception de la société. Et c'est vrai que de plus en plus, ces sociétés essayent d'entretenir aussi leur image. Donc, il y a à la fois la réputation professionnelle, la réputation des boîtes que LinkedIn essaye de valoriser ici. On voit aussi que LinkedIn a pas mal développé des outils sur notamment l'intelligence artificielle et a pas mal mis l'accent aussi à la souscription de newsletters ou de groupes. Ils avaient sorti ça notamment sur leur réseau social il y a quelques années. Moi, j'avoue que ce n'est pas quelque chose que je suis activement et il se trouve que je suis des newsletters que j'ai rencontrés ailleurs sur la plateforme et que je reçois directement dans ma boîte mail. Mais je ne vais pas activement sur le réseau social pour suivre des gens. Pas aujourd'hui. Peut-être que ça va changer dans le futur, mais pas aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être que finalement notre usage de LinkedIn va évoluer. Autre information du côté de LinkedIn avant qu'on passe à la dernière news et qui est quand même assez importante, c'est que si certes LinkedIn a réussi un pivot intéressant et en tout cas devient un endroit privilégié pour les influenceurs professionnels, on a aussi ce que nous dit Grolb, LinkedIn qui va se séparer encore de pas mal de centaines d'employés, puisque c'est 668 employés dont ils vont se séparer. Ça a été annoncé lundi. Et ça, cette vague de licenciements, elle arrive après que LinkedIn ait déjà. Elle est déjà licenciée plus de 700 employés en mai dernier. Désolée, j'en perdais mes mots. Et donc du coup, à l'époque, en mai, ils avaient mentionné que se séparer de 700 employés à peu près permettrait de se réorganiser pour une plus grande agilité et croissance. Cette fois-ci, ce qu'ils présentent pour ces nouveaux licenciements, c'est pour faciliter la prise de décision. Et en effet, ils disent qu'en plus petite équipe, ben, du coup, c'est plus facile, encore une fois, d'être agile. Donc, c'est vraiment très synonyme, hein. Les deux justifications pour se séparer des employés, c'est assez cohérent finalement, mais assez synonyme. Et c'est pas très étonnant quand on sait que Microsoft, de toute façon, a annoncé de nombreuses séquences de licenciements, finalement, qui va représenter 10 000 positions en tout qui vont être éliminées et qui avaient été annoncées en début d'année. Donc, rien de très, très étonnant ici. Voilà. Donc, surtout aussi avec le focus sur l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y a aussi des éléments où il y a peut-être besoin un peu moins de main-d'œuvre. Ça, j'en sais rien, j'extrapole. Évidemment, ça n'a pas été mentionné comme motif de licenciement, mais voilà. Donc, voilà pour LinkedIn. Ils ont peut-être l'air d'aller bien, en effet, avec une bonne croissance et une visibilité positive avec l'article dont on mentionnait du Financial Times. Mais de l'autre côté, ils quand même réduisent la voilure, ce qui est quand même un enjeu de pas mal de boîtes avec le climat économique actuel, malheureusement. On fait une toute petite pause pour mentionner notre sponsor ce matin et on en profite pour remercier Axonote. Axonote, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est une société qui va s'adresser avec leurs services plus aux indépendants, entrepreneurs ou dirigeants de PME, TPE. Et donc du coup le principe c'est vous en avez marre de faire votre gestion et votre compta sur Excel, vos factures sur Google, etc. C'est un vrai bazar parce que c'est disséminé à 36 000 endroits. Vous rêvez potentiellement de pouvoir faire tout au même endroit, et bien c'est ce que propose Axonote. Ils vont vous permettre de gérer tout au même endroit, de la facture à la compta, en passant par la gestion de projet ou même encore les ressources humaines. Alors Axonote a été conçu pour être facile à prendre en main, hein, et flexible. Donc, vous pourrez adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre société. Axonote utilise des normes de sécurité de très haut niveau, hein, pour protéger vos données. Et ces données seront disponibles notamment sur le cloud, ce qui vous permet d'y accéder sur votre smartphone, ordi, tablette ou que vous soyez en déplacement ou au bureau. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Pas de crainte de devoir avoir un appareil spécifique ou une connexion parfaite pour pouvoir y accéder. Donc en gros, pour résumer, Axonote, c'est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Alors bien sûr, ils ont un service client à votre écoute, donc pas besoin de perdre du temps sur des problèmes techniques, vous pourrez aussi les contacter facilement. Grâce à leur soutien, vous pourrez bénéficier d'un mois gratuit, sans plus entendre et surtout sans engagement, avec la commande Axonote dans le chat. Donc, pas besoin de rentrer sa carte bleue même pour essayer. Vous pouvez l'essayer gratuitement. Et si Axonote vous convient, et ben le lien que vous avez avec Naotech vous offre jusqu'à 50% de réduction. Donc, c'est pourquoi on les remercie évidemment de sponsoriser l'émission ce matin et de nous permettre de produire cette émission. Et donc, sans plus tarder, on enchaîne avec le dernier article du jour. Le dernier article du jour, c'est un sujet plus léger. Je voulais terminer sur une note un peu plus légère avant de se quitter. C'est l'arrivée d'un nouveau service de streaming en France en 2024. Alors, c'est quoi encore ce nouveau service de streaming ? Eh bien, c'est un service qui s'appelle Max. Alors, Max, c'est un peu bizarre. J'avoue qu'en mettant le hashtag ce matin, je dis, mais personne va comprendre de quoi je parle en mettant le hashtag Max dans le titre de l'émission. Eh ben, en fait, c'est anciennement, anciennement, le nom était HBO Max. Voilà. Donc, tout simplement, HBO Max, service qui n'est jamais arrivé en France jusqu'ici. Et donc, le groupe Warner Bros. Discovery a lancé le 23 mai dernier ce fameux service Max. Et pourquoi il s'appelle Max et pas HBO Max ? Eh bien, tout simplement, Max avait pour ambition de devenir une référence sur le marché du streaming grâce à des contenus pour tous les âges, qualitatifs ou non, avec des variations en termes de qualité. Et donc, du coup, la connotation HBO, ou en tout cas le nom HBO dans le nom, connotait la marque trop adulte. Et donc, c'est pour ça que tout simplement, ils ont changé le branding du service pour se débarrasser, entre guillemets, de la mention HBO et de proposer un service qui s'appelle tout simplement Max. Est-ce que finalement, Max, c'est pas difficile à identifier. Moi, je trouve ça un peu impersonnel. Et on peut dire Max à toutes les sauces. Enfin, Max, c'est vraiment un qualificatif. C'est pas une marque pour moi. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai risque ici de continuer à s'appeler Max. Bon, c'est leur problème, vous allez me dire. Mais voilà, je trouve qu'en termes de nom, y a un vrai problème. Donc à voir, hein. À voir si dans le futur, finalement, les gens vont quand même réussir à mémoriser ce nom et à comprendre de quoi on parle quand on parle de Max. Et donc du coup, le Discovery a dévoilé le 12 avril dernier finalement son service Max. Et donc on a un peu plus d'informations sur quel serait ce service. Et donc, parmi les grosses annonces, on a la première série Harry Potter de l'histoire. Donc ça, je ne savais même pas qu'il y avait un projet de série Harry Potter en lisant l'article de Numérama. J'étais, quoi ? Ah bon ? Non ? Trop bien. Donc voilà. Bon, à la fois trop bien, mais également j'ai peur. donc voilà, à voir. Mais en tout cas, première série Harry Potter, c'est évidemment un des programmes les plus attendus du coup sur la plateforme Max. Donc voilà, première série Harry Potter à arriver sur la plateforme. Il y aura également un prequel de Game of Thrones. Donc c'est Max qui va la voir. Il y a également la série Penguin de l'univers The Batman. Et on aura une nouvelle saison de Rick et Morty qui est déjà prévue, hein, mais aussi le retour de The Big Bang Theory sous la forme d'une série dérivée. Voilà, donc il y avait déjà un prequel de Big Bang Theory avec le Young Sheldon qui était l'enfance de Sheldon, pardon. Donc à voir, mais me voilà un petit peu les programmes présents. Dans le trailer aussi qui est partagé dans l'article, je vous encourage à aller voir, on peut voir d'autres séries comme Our Flags Mean Death, qui est une série de pirates humoristiques poussée par Taika Waititi. À voir, moi c'est une série que j'avais envie de voir, je trouve ça plutôt positif. Et voilà. Alors vous allez me dire pourquoi on en parle puisque ça a été mentionné en mai, en avril, etc. Pourquoi on en parle maintenant ? Eh ben tout simplement, initialement HBO Max devait arriver en France début 2023. Finalement, Discovery a repoussé le lancement de son service à une date ultérieure, mais a proposé ses contenus sur Prime Video. Et donc, je pense que vous pouvez le voir. Vous avez carrément le pass Warner qui coûte 9,99€. Et donc, du coup, je pense que là, c'est notre stratégie de la part de Discovery hein, qui va proposer, du coup, Discovery, qui est une association de Warner Bros. Et Discovery, hein, qui va, en plus de proposer le pass Warner, essayer d'avoir son propre service. Et donc, du coup, ce qu'on sait, c'est que le 16 octobre dernier, on a la responsable du projet qui est chez Warner pour l'Europe, Léa Hooper-Rosa, qui s'est exprimée justement sur le futur du service pour la France. Et c'est là qu'elle a annoncé que la France ferait officiellement partie des pays servis par le service en 2024. Donc pour l'instant, on sait que Max est uniquement disponible aux États-Unis et que d'autres marchés européens proposent HBO Max. Mais en tout cas, on peut spéculer que la transformation de Max, de HBO Max en Max pourrait se dérouler en même temps. J'en perds ma voix, en même temps que le service en France. Et donc, du coup, on sait que ça sera en 2024. Voilà. Et donc, il est probable que lors du lancement du service officiel, de la plateforme officielle de Discovery, eh ben, que le Pass Warner devienne tout simplement une Amazon Channel Max dans Prime Video. Donc voilà, en termes de prix, à quoi peut-on s'attendre ? Donc là, on peut un peu se référer au prix que l'on voit aux États-Unis. Par exemple, on a 9,99 $ par mois pour deux écrans Full HD avec publicité. Donc je trouve ça cher, mais bon, voilà. On a 15,99 $ par mois pour deux écrans flux HD et 30 téléchargements sans publicité. Voilà. Et puis après, vous avez la dernière formule qui permet d'avoir 4 écrans, 4K, Dolby Atmos, sans téléchargement, sans publicité. Donc voilà, donc clairement, encore un nouveau service qui fait son arrivée. Est-ce que vous allez vouloir choisir encore ? Enfin, en tout cas, là, c'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs différents en termes de services de streaming. Et ça va être compliqué de s'y retrouver, quoi. Surtout quand on voit que des fois, il y a des programmes qui bougent d'une plateforme à l'autre, ça devient assez prise de tête. Donc j'espère que à un moment donné, il va y avoir une espèce de consolidation peut-être des plateformes. Moi, en tout cas, j'aime pas du tout le service de Prime là où il faut s'abonner en plus de l'abonnement Prime dans Prime Vidéo. En plus, je suis pas fan de l'expérience de l'application. Donc du coup, j'ai pas forcément envie de souscrire via leur application. Mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué de s'y retrouver, quoi. Voilà un petit peu pour le service de streaming. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quand même assez hypée sur la série Harry Potter. Donc, il y aura peut-être une période d'essai. Je ne sais pas comment on va le faire, mais au moins pour essayer de choper la série Harry Potter, quoi. Et Flags Mean Death. J'avoue que cette série, j'avais envie de la suivre aussi. Pour regarder Star Trek, ça devient compliqué. Ah, j'avoue que moi, j'ai Canal. Donc, je regarde... Ah non, on a pris un abonnement sur Canal en plus. Ouais, ouais. C'est Paramount, je crois. Je crois que c'est Paramount qui me permet de regarder... d'ailleurs, j'aime beaucoup. C'était Jérôme qui me l'avait conseillé. La série Star Trek Strange New World, que j'aime beaucoup, là. Il me reste un épisode de la seconde saison, là. Et elle me plaît beaucoup. Ouais. Vraiment, les épisodes sont top. Je crois que sur la seconde saison, là, je pense que j'ai trouvé la seconde saison encore meilleure que la première, à part un épisode que j'ai trouvé un peu plus faible que les autres, je crois. Mais vraiment top. Bon, sur ce, il est quand même 9h28. Hein. On a fait une bonne émission d'Odu ce matin. Et du coup, avant de se quitter, on va quand même regarder qui est en live ce matin. Eh ben, on va peut-être parler, rejoindre Samuel Etienne peut-être pour... discuter. Voilà. Entre-temps, en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée dans la chatroom. C'était un vrai plaisir de vous retrouver ce matin, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes informés de manière ludique. Et puis, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine, mardi matin, comme toutes les semaines. Et puis sinon, vous retrouvez Guillaume demain matin pour le mug. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.